Voilà, c'est mieux comme ça, oui, je pense, hein. On m'entend bien? Voilà. Alors, nous allons poursuivre sur le thème qui a été le nôtre pendant ce week-end, sur le pain, le vin et l'huile. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions faire deux lectures dans la parole du Seigneur. La première dans le livre du Deutéronome, au chapitre 14, cette fois-ci, nous lisons à partir du verset 22. Deutéronome 14 et verset 22. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que te rapportera ton champ chaque année. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu où il choisira pour y faire demeurer son nom, la dîme de ton blé, de ton vin et de ton huile. À nouveau, dans ce texte, nous retrouvons ces trois éléments, le pain, le vin et l'huile. Et puis, j'aimerais que nous lisions aussi un court verset dans le livre des Juges, au chapitre 21, au verset 19. Il nous est dit, « Ils dirent, voici qu'il y a chaque année une fête à l'Éternel à Shiloh, qui est au nord de Bethel. » En relation avec ce thème du pain, vin et huile que nous avons déjà abordé hier, j'aimerais évoquer ce matin une fête mineure qui vient d'être célébrée il y a quelques jours de cela en Israël et dans le monde juif, dans la diaspora tout entière. Cette fête, elle n'est pas directement citée dans la Bible. Il y a simplement une allusion qui est faite dans le deuxième texte que nous avons lu au chapitre 21 du livre des Juges. Cette fête s'appelle en hébreu Tou Bishvat, c'est-à-dire le 15e jour du mois de Shevat, qui est le mois dans lequel nous sommes, et qui porte aussi le nom de Nouvel An des Arbres. Et j'aimerais que nous puissions essayer de comprendre le sens de cette fête en relation avec le thème que nous avons abordé pendant ces jours. La foi d'Israël repose sur deux certitudes. La première, c'est que autrefois Dieu a libéré son peuple de l'esclavage de l'Égypte. Et ça, c'est l'acte fondateur du peuple d'Israël. Israël, en tant que peuple, existe à partir du moment où il a été libéré de l'esclavage de l'Égypte. Et dans la vie spirituelle du peuple d'Israël, il ne se passe pas un seul jour où l'on ne bénisse Dieu pour cette grande délivrance qu'il a accordée à son peuple. Chaque fête aussi est l'occasion de bénir Dieu pour cette libération, ainsi que toute une partie importante de l'office synagogal le samedi matin, le jour du Shabbat, qui s'appelle la Géoula, ça veut dire la rédemption. C'est ce temps où l'on bénit Dieu pour cette libération de l'esclavage de l'Égypte. Mais si Dieu est intervenu autrefois pour libérer son peuple, alors c'est parce qu'il est encore capable de le faire aujourd'hui. Et c'est surtout parce qu'il le fera demain. Et s'il y a eu un premier exode, il y aura aussi un dernier exode, un deuxième exode au temps de la fin. Et cet exode ne sera plus la libération de l'esclavage de l'Égypte. Cette Pâque qui a permis à Israël de sortir libre de ce pays où il était captif. Mais Dieu brisera au temps de la fin toutes les chaînes de son peuple. Il le ramènera dans son pays et il le fera pénétrer dans le royaume messianique de la même manière que Josué a fait pénétrer le peuple de Dieu autrefois dans la terre promise, la terre de Canaan. Et la fête de Tou Bishvat, cette fête qui vient d'être célébrée, est aussi l'anticipation de cette deuxième Pâque, de ce deuxième Exode. Et nous allons voir que de la même manière que l'on célèbre chaque 14e jour du mois de Nissan, le Seder, c'est-à-dire le souvenir de la sortie d'Égypte, de la même manière, à l'occasion de Tou Bishvat, on célèbre un second Seder, très spécial, qui est l'anticipation de celui que l'on prendra dans le royaume messianique et que nous avons défini hier comme le festin des noces de l'agneau. Et cette fête est une annonce des temps messianiques. Tu Bishvat, c'est une fête, encore une fois, qui a été célébrée à l'époque biblique, et on l'a lu tout à l'heure dans le livre des Juges. Ce n'est pas une fête qui est décrite avec beaucoup de détails dans l'Écriture, et notamment, il y a cette unique allusion qui est faite à ce temps dans ce livre des Juges, au chapitre 21, à une occasion très spéciale, quand la tribu de Benjamin avait été presque exterminée, et que, pour essayer justement de rétablir cette tribu à laquelle, d'une manière un peu rapide et imprudente, les Israélites avaient juré de ne plus jamais donner leur fille en mariage, si bien que c'était évidemment condamné cette tribu à une extinction en l'espace d'une génération. Et pour contourner ce vœu imprudent qu'ils avaient fait, profitant de cette fête qui avait lieu tous les ans le 14e jour de Shvat à Shiloh, l'endroit où était l'Arche de l'Alliance, le premier temple qui avait été construit là-bas. Entre parenthèses, il est intéressant de noter que le peuple d'Israël qui est revenu à Shiloh a repris cette coutume et à cette occasion de Tu Bishvat, femmes et jeunes filles vont à Shiloh pour y danser dans les vignes exactement comme le faisaient à l'époque biblique. Et c'est en même temps un accomplissement prophétique parce qu'il est aussi écrit dans le livre de Jérémie « Dans ce temps-là, tu planteras à nouveau tes vignes dans les montagnes de Samarie, fille d'Israël. » Et cette prophétie, on en voit l'accomplissement à l'occasion de cette fête où les filles d'Israël, comme leurs ancêtres, vont danser dans les vignes. Et là, bien sûr, les membres de la tribu de Benjamin sont autorisés à enlever une jeune fille qu'ils vont épouser avec l'accord tacite des parents. Bon, on viole le vœu sans le faire. Enfin, c'est un peu du jésuitisme. Enfin, disons, ça va permettre à cette tribu de Benjamin de subsister et de poursuivre sa route. Donc ça, c'est la seule allusion véritablement biblique qui est faite à cette fête de Tu Bishvat. Maintenant, il y a une autre signification de cette fête dans le livre du Deutéronome que nous avons lu tout à l'heure. Cette fête est appelée le Nouvel An des Arbres. C'est très intéressant, il y a trois Nouvel An dans le calendrier biblique. Ce que l'on appelle le Rosh Chodashim, la tête des mois, le premier jour du mois de Nissan, c'est-à-dire le mois de Pâques, le printemps. Il y a ensuite ce qu'on appelle le Rosh Hashanah, le premier jour du septième mois, qui signifie la tête de l'année. Et puis il y a le Rosh Hashanah Leilanot, Tu Bishvat, le nouvel an des arbres. Pourquoi nouvel an des arbres ? Parce que, à cette période de l'année dans laquelle nous nous trouvons, nous arrivons à la fin de l'hiver et au début du printemps. Et il y a, à cette période de l'année, un véritable réveil de la nature. À l'époque biblique, on coupait du bois pour les sacrifices dans le temple. Et lorsque commençait le mois de Shvat, le premier jour du mois de Shvat, on cessait de couper le bois, parce que c'était l'époque des pluies d'hiver, ces pluies que l'on appelait Revivim. Je vous ai parlé hier des premières pluies, les Yorim, les Yoré, qui sont les pluies d'automne. Et il y a une deuxième époque des pluies, qui commence, disons, fin décembre et qui s'achève, grosso modo, disons début mars, c'est l'époque des pluies les plus importantes. Revivim, ça veut dire l'abondance. En principe, c'est l'époque où les pluies sont les plus abondantes. À l'époque des pluies d'automne, ce sont des pluies violentes, nous l'avons vu, mais de courte durée. et ensuite le soleil revient. Par contre, dans cette période de l'année, la pluie est censée d'une manière beaucoup plus, tomber d'une manière beaucoup plus continue et d'une manière beaucoup plus importante. Et c'est précisément à cette saison qu'on va aussi voir les plantes se nourrir de cette eau qui est nécessaire pour eux. Or, quand commence le mois de Shvat, les bois, les arbres sont gorgés d'eau. Et par conséquent, ils sont impropres à être offerts, à être coupés pour les sacrifices, parce que, gorgés d'eau, ils ne vont pas brûler. Et puis, une autre raison pour laquelle on cessait de couper le bois à cette époque, c'est que cette humidité ambiante qui imprègne tout le pays à cette période favorise la prolification de toutes sortes de vers, de chenilles, et notamment de chenilles blanches. Et c'est très intéressant de noter que à partir du moment plus on avance dans le mois de Shvat, et plus l'on voit l'éclosion de ces chenilles qui vont s'envelopper dans une espèce de cocon blanc qui va leur permettre de résister à la pluie et au froid. Et ces cocons blancs vont donner une teinte blanche au pays tout entier et distille une odeur très spéciale qui est déjà l'odeur de l'été. Et bien sûr, la présence de ces chenilles ne permet pas donc d'utiliser le bois que l'on pourrait couper, et c'est la raison pour laquelle on laisse le bois en quelque sorte se reposer, et parce que les arbres maintenant vont vivre de l'eau de l'année nouvelle. C'est aussi l'époque de la montée de la sève, c'est l'époque où fleurissent les premiers arbres qui apparaissent dans les champs, c'est-à-dire les amandiers. Très intéressant, j'étais la semaine dernière à Istres, dans une église apostolique semblable à la vôtre, et dans toute cette région, exceptionnellement, tous les amandiers étaient en fleurs. Ça, c'est exceptionnel. Je dis, tiens, mais c'est exactement comme en Israël, et ça, c'est dû à cause du fait qu'on n'a pas eu d'hiver cette année, mais disons, c'est effectivement normal qu'à cette période en Israël, les amandiers fleurissent. Ça veut dire que les arbres qui n'ont pas pu utiliser l'eau des pluies parce qu'il faisait trop froid vont pouvoir maintenant le faire parce que la température est en train de changer et ils vont vivre de l'eau de l'année nouvelle. Et ça veut dire que pour eux commence une année nouvelle, d'où l'expression « nouvel an des arbres ». Les arbres commencent à se nourrir de l'eau de l'année nouvelle. Or, il y a une prescription que nous avons lue dans le livre du Deutéronome. Tu prélèveras la dîme de toutes tes semences, et notamment des arbres. Et tout Bishvat, la moitié du mois de Shvat, le 15e jour du mois, est la date à laquelle on compte l'année nouvelle pour calculer le moment où il faut payer et donner les dîmes sur les produits agricoles, et notamment sur les arbres, sur le pain, le vin et l'huile, comme nous l'avons vu hier. Vous savez aussi qu'il y a une prescription qui interdit de manger du fruit des arbres pendant 3 ans. Les arbres doivent être circoncis. C'est la circoncision des arbres fruitiers. Et c'est à partir du nouvel an des arbres que l'on calcule ces 3 ans pendant lesquels les arbres vont être circoncis. Et c'est une manière, c'est une sorte d'écologie biblique, pourrait-on dire, qui respecte aussi le droit de propriété de Dieu sur la nature. L'homme a reçu de Dieu, dans le jardin d'Éden, l'ordre de dominer sur la nature, mais comme l'intendant du Seigneur. Il n'en est pas le propriétaire, il en est seulement le gérant. Et tout le rituel du Shabbat, de l'année de Shemitah, c'est-à-dire de l'année sabbatique qui revient tous les 7 ans, du jubilé, et de toute cette législation sur les dîmes des arbres, ont pour but de rappeler que Dieu est le maître de sa création, parce que justement il en est le créateur, et de rendre hommage au créateur. Le jour du Shabbat, c'est un hommage au créateur. On reconnaît que l'on est dépendant de Dieu. Et on rend à Dieu ce qui lui revient, le temps qui lui est fixé, qui lui est accordé. De la même manière, par les dîmes, on reconnaît que Dieu est le propriétaire de tous les biens qui sont les nôtres, et on lui rend la part qui lui revient, comme un locataire, en quelque sorte, paye un loyer au propriétaire. C'est un peu la même pensée, c'est un peu la même idée. Et tout ce qui concerne ces dîmes des arbres est aussi en relation avec cette souveraineté de Dieu devant laquelle on s'incline et que, par conséquent, on reconnaît. Le psaume 104 nous dit ceci. C'est un texte qui est cité dans la synagogue chaque samedi matin. « Tu envoies ton souffle ou ton esprit », c'est le même mot en hébreu, « ruach », et tous les êtres sont créés, et tu renouvelles la surface de la terre. Par conséquent, il faut laisser du temps à Dieu pour renouveler sa création. Et c'est pourquoi les arbres, les fruits des arbres ne peuvent pas être consommés pendant les 3 premières années, pour que Dieu puisse ainsi, par son souffle, par son esprit, renouveler chaque jour, l'œuvre, chaque année, l'œuvre de sa création. La terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Et par conséquent, on ne peut pas jouir des produits de la terre sans en rendre grâce à Dieu qui en est le propriétaire. Et lorsque vient cette fête de Tou Bichvat, la prière que l'on récite est la suivante. « Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, roi et maître de l'univers, toi qui as créé le fruit des arbres. » Pourquoi 3 ans ? Parce que c'est le 3e jour de la création que les végétaux ont été créés. Et l'équation « un jour, un an » est très fréquente dans la Bible. Les espions ont visité le pays de Canaan pendant 40 jours, ils ont décrié le pays promis et le peuple d'Israël a été condamné à errer dans le désert pendant 40 ans, un an pour un jour que les espions ont mis à visiter le pays. Et Dieu a créé dans ce jardin d'Éden les arbres et notamment 2 arbres, l'arbre de la vie et l'arbre de la mort, c'est-à-dire l'arbre de la connaissance. Non pas que Dieu voulait empêcher l'homme d'avoir la connaissance, mais en fait, cet arbre qui est défini comme étant celui par lequel l'homme, dit le serpent, tu seras comme Dieu, connaissant le bien et le mal, mais on peut aussi traduire, on peut comprendre, nommant le bien et le mal. Ça veut dire, l'homme devient autonome. Et il ne dépend plus de Dieu pour faire la différence entre bien et le mal. Il décide lui-même souverainement ce qui est bien et ce qui est mal, selon sa propre compréhension limitée. Or, Dieu seul est capable de connaître objectivement ce qui est bien et ce qui est mal. L'homme ne peut avoir qu'une connaissance subjective du bien et du mal. Et mal ce qu'il ressent comme tel, et bien ce qu'il ressent comme tel. Mais ça ne veut pas dire qu'objectivement les choses soient bien. Et c'est finalement dans le temps dernier, à la fin de toute chose, que l'on peut comprendre ce qui est bien et ce qui était mal. Et c'est ce qui apparaît notamment dans l'histoire de Joseph. Joseph qui a connu toutes sortes de malheurs, de vicissitudes, et qui à la fin dit, eh bien, tout ça c'était bien. Vous aviez, vous, mes frères, médité de me faire du mal, et je l'ai ressenti comme un mal quand je l'ai vécu, quand je l'ai expérimenté, c'est vrai et c'est normal. Mais en fait, c'était le plan de Dieu, pour que par ce moyen-là, je puisse sauver la vie d'un peuple nombreux. Et en dernier recours, même ce que moi, Joseph, j'ai ressenti comme mal quand je l'ai vécu, c'était bien. Parce que c'était le plan de Dieu. Et ce n'est qu'à la fin des choses que l'on peut comprendre leur valeur. Ce n'est pas pour rien que l'Ecclésiaste dit ceci. Mieux vaut le commencement que la fin. La fin que le commencement, et le jour de la mort vaut mieux que celui de la naissance. C'est très paradoxal. Le jour de la mort vaut mieux que la naissance. Oui, parce que la valeur de la vie d'un homme apparaît à ce moment-là seulement. Dans sa globalité, dans sa totalité. Et Dieu seul va prononcer un jugement sur ce qu'a été la vie de cet homme, parce que lui seul a la connaissance objective du bien et du mal. Et l'homme, en mangeant ce fruit de la connaissance de cet arbre, veut ravir cette connaissance à Dieu. Et il veut lui aussi pouvoir connaître objectivement le bien et le mal pour décider souverainement ce qui est bien et mal sans avoir à rendre compte à Dieu à ce sujet-là. Or, nous l'avons vu, pour pouvoir connaître objectivement ce qui est bien et ce qui est mal, il faut connaître la fin des choses. Donc il faut connaître l'avenir. Et l'homme a toujours cherché, depuis le jardin d'Éden, à connaître l'avenir. Et c'est pourquoi les diseuses de Bonaventure, les astrologues, les cartomanciennes et gens du même ordre fleurissent depuis les origines jusqu'à nos jours. Connaître l'avenir, or Dieu le lui cache, cet avenir. Dieu ne veut pas qu'il le connaisse. Car alors, il interférerait dans la chaîne des causes et des effets, et ainsi le plan de Dieu serait réduit à l'échec. Et c'est pourquoi Dieu va chasser l'homme du jardin d'Éden pour qu'il n'ait pas cette connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire la connaissance de la fin des choses, de l'avenir. Et voyez-vous, la mort, cette mort qui consiste à vouloir être autonome par rapport à Dieu, va entrer par la bouche un fruit qui est mangé. Et par ce fruit qui va donner la mort, parce qu'il est rébellion, parce qu'il est désobéissance à Dieu, l'homme n'a plus accès à cet autre arbre qui était au milieu du jardin, qui était l'arbre de la vie. Mais cela seulement pour un temps. Et Dieu va le lui rendre. Ce qu'il a perdu dans le jardin d'Éden, au temps de la fin, Dieu va lui rendre, et aussi par le moyen d'un autre arbre, l'arbre de la croix. La mort est entrée dans le monde par un arbre, et la vie éternelle était rendue au monde par un arbre, l'arbre de la croix. Et cet arbre de la croix, il est aussi quelque chose qui est destiné d'une certaine manière à être mangé. Et lorsque nous prenons le pain et le vin de la scène, eh bien, c'est en quelque sorte aussi le fruit. Et quand on prend le repas de Pâques, on bénit Dieu de la manière suivante. Béni sois-tu éternel, notre Dieu, roi et maître de l'univers, toi qui crées le fruit de la vigne. Béni sois-tu éternel, notre Dieu, roi et maître de l'univers, toi qui fais sortir le pain de la terre. Et tu envoies ton souffle, ton esprit, l'huile, le pain, le vin et l'huile. Et ces trois éléments qui sont le fruit de la vigne, qui sont le fruit de l'arbre, le fruit de la terre. C'est quelque chose qui rend ce que l'homme a perdu dans le jardin d'Éden, la vie éternelle, dans la mesure où il accepte de se soumettre à Dieu et de prendre un autre chemin que celui qui avait été pris par son ancêtre Adam, imitant cela Joseph, qu'on trouve à la fin du livre de la Genèse, qui, contrairement à Adam qui voulait se faire Dieu, « Tu seras comme Dieu, lui dit le serpent, déclare à ses frères, « Suis-je comme Dieu ?» pour connaître le bien et le mal. Et cet homme qui avait pourtant toutes les raisons de se glorifier de son immense sagesse, de cette grande connaissance que Dieu lui avait donnée, trouve un chemin d'humilité en disant « Non, je ne suis pas comme Dieu, je ne peux pas connaître, Dieu seul connaît, et je me soumets à son plan, je me soumets à sa volonté. » Et c'est alors que l'arbre de la vie peut être rendu à l'homme. Et ça, c'est le sens même, justement, de cette fête, qui est celle du Tu Bishvat. Et cette fête, qui a cessé d'être célébrée après la destruction du temple, parce qu'elle n'avait plus de raison d'être, vu qu'on n'avait plus besoin de couper du bois pour les sacrifices, puisqu'il n'y avait plus de sacrifices, cette fête est tombée en oubli jusque, disons, à peu près au XVIe siècle de notre ère. À cette époque-là, après l'expulsion d'Espagne en 1492, de nombreux Juifs sont venus s'établir dans le pays d'Israël. Ils pensaient que cette catastrophe terrible, qui n'a d'égal que la Shoah de notre temps, était le prélude de la rédemption. Et que par conséquent, le temps de ce deuxième exode dont nous avons parlé tout à l'heure était proche. Et ils voulaient anticiper ce mouvement de retour. Et ça a été, en quelque sorte, un des premiers mouvements sionistes qui est né à cette période au XVIe siècle. Et notamment, ces exilés d'Espagne sont venus s'établir en Galilée, dans deux villes, la ville de Tzfat et la ville de Tibériade, parce que le texte biblique disait que c'est là que le Messie apparaîtrait. Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Le territoire des païens, ce qui se dit en hébreu, Glilagoyim, qui a donné en français Galilée. Et là, ils ont commencé aussi à planter des arbres et ils ont recommencé à célébrer cette fête de Tu Bishvat d'une manière très spéciale. Et ils ont élaboré un seder nouveau, ça veut dire un repas traditionnel de Pâques, qui célébrait non pas la première Pâques qui était celle du pays d'Égypte, mais qui célébrait par anticipation la dernière Pâque qui serait la Pâque de la rédemption au dernier jour, quand ce Messie, nouveau Moïse, viendrait rassembler le peuple d'Israël de toutes les nations pour les ramener dans la terre promise et pour établir le royaume messianique, pour rendre à la terre le caractère de l'Éden qu'elle avait perdu au moment justement du péché d'Adam et d'Ève au commencement. Et pendant cette période de Tu Bishvat, ce seder de Tu Bishvat, donc le 15e jour, 14e jour au soir du mois de Shevat, on va manger essentiellement des fruits du pays d'Israël. Et jusqu'à aujourd'hui, les Juifs de la diaspora ne mangent que des fruits, et des fruits que l'on fait venir spécialement du pays d'Israël. Pourquoi ne mange-t-on que des fruits ? Parce qu'au commencement, dans le jardin d'Éden, on ne mangeait que des fruits, les fruits des arbres. Et au temps de la faim, parce que justement la terre aura été restaurée dans son état primitif, dans cette harmonie qui était la sienne au commencement, l'homme à nouveau ne mangera que des fruits, le fruit de ses arbres. Et on célèbre Dieu pour chacun des fruits que l'on va consommer pendant ce repas de seder de Tu Bishvat. Et il ne sera plus nécessaire de faire sortir le pain à la sueur de son front. Le pain sera remplacé par ses fruits, et notamment par le fruit de l'arbre de la vie qui sera à nouveau consommé. Et ce fruit de l'arbre de la vie, il est assimilé avec le figuier dans la parole, dans la tradition juive. Pourquoi le figuier ? Parce que le figuier est aussi dans la Bible le symbole même de la Torah. Cette Torah dont nous avons parlé hier. Et dans le livre des Proverbes, la Torah est assimilée avec l'arbre de vie. Elle est un arbre de vie. Quelle similitude y a-t-il entre le figuier et la Torah ? Alors, il y en a deux essentiellement. La première, c'est que le figuier est étroit à la base et il va en s'élargissant. C'est-à-dire que chaque parole de la Torah, eh bien, est une source de richesse. On prend un verset, c'est limité, c'est petit, mais de ce verset-là, on peut tirer de très multiples enseignements qui vont en s'accroissant. Plus on médite sur ce verset-là, plus on en découvre les richesses. Comme il est écrit dans le psaume 1er, « Heureux l'homme qui rumine cette Torah jour et nuit ». Le mot hébreu signifie littéralement « ruminer », comme un ruminant qui ramène constamment la même nourriture et qui trouve toujours des choses nouvelles. Et puis, une autre caractéristique du figuier par rapport à la Torah, c'est que si vous regardez les feuilles d'un figuier, aucune n'est semblable à l'autre. Et ça aussi, ça nous parle de la Torah. Tu peux lire 70 fois le même verset et toujours tu trouveras quelque chose de nouveau. Et la tradition juive nous dit « Chaque verset de la Torah a 70 significations. » 70, 7 fois 10, c'est le chiffre de la plénitude. Ce n'est pas 70 au sens littéral du terme, ça veut dire un nombre infini de fois. Tu peux toujours le relire, tu trouveras toujours des choses nouvelles. Et on raconte cette petite histoire d'un rabbin qui donne un jour à un de ses disciples un travail à faire sur un verset de la Bible. Il dit, tiens, voilà un verset de la Bible. Va et trouve-moi les 70 significations de ce verset. Et voilà notre garçon qui s'en va et qui travaille. Des semaines. Et puis, un jour, tout fier, il vient avec un épais paquet de feuilles, comme ça, et dit à son rabbin, « Voilà, Rabbi, il y a les 70 interprétations de ce verset que tu m'as donné. » Le rabbin regarde, il dit, « C'est bien, tu as bien travaillé. Maintenant, va et trouve la 71e signification. » C'est-à-dire, il n'y a jamais de limite à cela. Et cette connaissance qui sera non pas la connaissance du serpent, mais la connaissance que Dieu donnera, parce que dans la Torah, justement, on découvre ce que l'homme veut connaître, le bien et le mal. Et au temps de la fin, Dieu donnera cette connaissance à l'homme. Et la Torah est non seulement quelque chose qui nous est donné pour aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui nous est donné pour demain, pour la vie éternelle. Dieu a donné à Israël une première Torah quand il est sorti d'Égypte. Dieu donnera une nouvelle Torah quand il aura le deuxième Exode. Une Torah qui ne sera pas différente de la première, mais qui en sera la mise en lumière de tout ce qui est caché à l'intérieur de cette Torah. Et si vous lisez le sermon sur la montagne, voyez que Jésus donne cette deuxième Torah. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la Torah et les prophètes, je suis venu pour accomplir, et accomplir, ça se dit en hébreu, les kayem. Et ça signifie très exactement, en grec on l'a traduit par accomplir, mais c'est donner le véritable sens, le sens caché, la véritable signification. Et je dis, vous avez entendu qu'il a été dit, et moi je vous dis, voilà ici le véritable sens, voilà la véritable signification du commandement. Donc Jésus accomplit cette espérance d'Israël de donner une deuxième Torah. Et c'est pourquoi les sages d'Israël, à l'époque de Jésus, enseignaient souvent sous la vigne et sous le figuier, deux arbres qui ont une signification messianique. Pendant l'ère messianique, chacun vivra sous sa vigne et sous son figuier. Ça veut dire dans l'abondance et dans la paix. La vigne, la joie, nous l'avons vu, et le figuier, la connaissance. Et ces deux arbres étaient des endroits où les sages enseignaient à leurs disciples. Un des plus célèbres rabbins d'Israël, il s'appelait Rabbi Yochanan ben Zakkai, était cultivateur, comme beaucoup de rabbins qui avaient une profession. Jésus n'était-il pas charpentier, après tout, comme les rabbins de son temps ? Et Rabbi Yochanan ben Zakkai était vigneron. Plus tard, il y aura un autre rabbin des plus célèbres qui était établi en France, à Troyes, qui s'appelait Rashi, et qui lui aussi était vigneron. Et entre les moments de travail, parce qu'il exploitait cette vigne avec ses disciples, il enseignait sous la vigne. Et la vigne de Yavné, qui était l'endroit où Rabbi Yochanan avait sa vigne, était devenue un endroit célèbre pour l'enseignement de la parole de Dieu. Et puis on enseignait aussi sous le figuier. Et ces deux arbres étaient censés favoriser la réflexion et l'ouverture d'esprit par le Saint-Esprit. Étudier la Torah sous un figuier, aider à la comprendre, et notamment à en comprendre le sens messianique. Et vous vous souvenez d'un épisode aussi dans l'évangile de Jean, où quelqu'un qui s'appelle Nathanaël était sous un figuier, quand son frère vient lui dire « Nous avons trouvé le Messie, Jésus de Nazareth. » Et Nathanaël répond « Mais peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Et son frère lui dit « Viens et vois. » Et quand Jésus voit venir Nathanaël, il lui dit « Voici un Israélite dans le cœur duquel il n'y a pas de fraude. » Nathanaël lui dit « Mais d'où me connais-tu ?» Jésus lui dit « Quand tu étais sous le figuier tout à l'heure que ton frère t'appelait, je t'ai vu. Qu'est-ce qu'il faisait sous le figuier ?» Il méditait la Torah et plus spécifiquement, il méditait le caractère messianique de la Torah. Il méditait sur le Messie et la venue du temps messianique. Et son frère lui dit, mais ce sur quoi tu es en train de méditer, c'est accompli. Viens voir Jésus de Nazareth et ce Messie que tu attends. Et Nathanaël le découvre en disant, oui, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es véritablement le roi d'Israël. Maintenant, dans ce céder, non seulement on consomme des fruits, comme l'avons vu, mais également on boit 4 coupes de vin. Donc les fruits vont remplacer le pain à l'époque messianique, et il y aura l'arbre de la vie, qui va donner un pain surnaturel qui sera le pain de vie. Et puis il y a le vin, 4 coupes de vin. Et 4 coupes qui vont être différentes. La première coupe de vin est une coupe de vin entièrement blanc. La deuxième coupe de vin est une coupe de vin blanc mélangée avec un peu de vin rouge. La troisième coupe de vin est une coupe de vin rouge mélangée avec un petit peu de vin blanc. Et la quatrième coupe est une coupe entièrement de vin rouge. Pourquoi cette coutume? Eh bien, parce que à cette période de l'année, la nature est en train de changer d'une manière totale. À partir de la fin du mois de décembre, apparaissent dans les champs les premières fleurs sauvages. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu suffisamment de pluie pour que, effectivement, ces fleurs apparaissent d'une façon durable et non pas d'une manière éphémère, comme ces fleurs du désert dont je vous ai parlé hier, qui, lorsque les premières pluies ont cessé, eh bien, se fanent et se renferment. Là, ce sont des fleurs qui vont durer d'une façon durable. Et cette période de l'année est la période où la terre d'Israël est la plus belle, à cause de ces fleurs des champs, ces fleurs sauvages. Les premières fleurs qui apparaissent à la fin de décembre, ce sont des cyclamens blancs ou roses. Et ces cyclamens vont donner à la nature une dominante blanche. Et si on a de la chance de se promener dans des endroits où justement ces fleurs poussent en abondance, vous allez avoir l'impression d'un véritable tapis blanc. Puis, au fur et à mesure qu'on approche de cette période de Tou Bichvat, il va y avoir ça et là des anémones et des renoncules rouges qui vont apparaître au milieu de ces cyclamens blancs. Et il va y avoir des petites taches rouges qui vont naître dans cet environnement qui est essentiellement blanc. Et petit à petit, ces fleurs rouges, anémones et renoncules vont dominer et les cyclamens vont petit à petit disparaître. si bien qu'on va passer du blanc au rouge. Et quand arrive l'époque de Tu Bishvat, ce qui est la dominante dans les champs, dans la nature sauvage, ce sont ces fleurs rouges. Dans le Sermon sur la montagne, qui a dû être donné à cette période de l'année, Jésus déclare ceci pour exhorter ses disciples à ne pas craindre le lendemain. Il dit « Ne dites pas que mangeons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car ça, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Considérez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant votre Père céleste les nourrit. Et considérez les, alors on traduit les lys des champs. » C'est une erreur. Il n'y a pas de lys sauvage en Israël, en tout cas pas dans des quantités comme cela. Et ce à quoi Jésus faisait allusion, c'était aux anémones. Et dans notre nouvelle traduction, nous avons remplacé lys par anémone, parce que ce sont effectivement celles auxquelles Jésus faisait allusion. Considérez les anémones des champs. Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Mais c'est vrai que quelques semaines plus tard, quand vient le soleil, ses fleurs sèchent. Et comme le dit Jésus, eh bien elles sèchent, on les coupe et on les jette au feu. Et pourtant, vous avez, vous, beaucoup plus de valeur que ces fleurs-là. Donc ne craignez pas. Et voyez-vous, le fait de prendre du vin blanc pour terminer par une quatrième coupe de vin rouge évoque ce passage du blanc au rouge, évoque ce passage de ces cyclamènes blanches jusqu'aux anémones et renoncules rouges qui sont à cette époque-là la chose essentielle. Et quelle est la signification justement de ce passage du blanc au rouge qui marque justement la nature à cette période-là? Eh bien, là aussi, c'est l'image de ce deuxième exode que l'on attend. Et ce deuxième exode sera marqué évidemment par l'exil, d'abord précédé par l'exil, de la même manière que le peuple d'Israël a été, lors du premier exode, 400 ans en exil en Égypte. De la même manière, le peuple d'Israël va être en exil parmi les nations pour une durée indéterminée, mais que nous connaissons maintenant, puisque nous savons que ça a duré à peu près 2000 ans, parce que ce temps est en train de s'achever. Et à partir du moment où les expulsés d'Espagne sont venus s'installer en Israël et ont institué ce seder a commencé à être célébré dans toute la diaspora. Et a été célébré comme justement un signe prophétique et une prière pour que le Seigneur accomplisse rapidement ce retour, l'anticipation justement de ce renouveau de la nature, ce retour à l'Éden. Et le retour à l'Éden, il est symbolisé justement par cette renaissance de tous les arbres qui ont été déracinés dans le pays d'Israël. Le pays d'Israël était un pays, nous l'avons vu, où il y avait de nombreux arbres quand les Israélites y sont entrés et quand ensuite ils les ont cultivés. Et ensuite, au moment de l'exil, on a vu ça déjà de l'exil de Babylone, le pays est redevenu un tohu-bohu. Et notamment avec le fait que les myrtes ont repoussé avec la prolifération des animaux sauvages qui le peuplaient. Et quand le peuple d'Israël est revenu, nous avons vu cela hier avec le prophète Zacharie, dans le chapitre 1er, il est question du 25e jour du mois de Shevat, où le prophète a eu cette vision des quatre chevaux, des quatre cavaliers qui se trouvaient parmi les myrtes. Et c'est très intéressant de constater qu'il y a quatre types de chevaux. Des chevaux blancs, des chevaux roux, et des chevaux tachetés, à la fois roux et blancs. Ça veut dire que ce qui est aujourd'hui symbolisé par ces quatre coupes de vin blanc mélangé de rouge, vin rouge mélangé de blanc et vin rouge, sont symbolisés aussi par ces quatre chevaux que nous retrouvons dans la vision de Zacharie dans le premier chapitre de son livre, qui a eu lieu justement ce premier jour du mois. Et c'est le processus de rédemption d'Israël qui commence. Jusqu'à quand, Seigneur, pose dit l'ange, au Seigneur. « Jusqu'à quand seras-tu irrité contre Jérusalem et contre les villes de Juda, contre lesquelles tu t'es dressé pendant 70 ans ?» Et le Seigneur répond par des bonnes paroles, en disant « Maintenant, le temps de grâce, le temps de la rédemption est arrivé. » Et la vision suivante, ça va être la vision justement du chandelier d'or qui représente cette résurrection d'Israël. Et cette huile qui coule dans le chandelier, selon le professeur Réouveni, inscrit 7 mots sur chacune des branches du chandelier. Lo bechaid velo bechoar ki im beori. 7 mots en hébreu. En hébreu, ça vous, en français, ça vous donne non pas la puissance ni pas la force, mais par mon esprit, par l'huile du Saint-Esprit, dit l'Éternel des armées. Et là, le processus de la rédemption s'enclenche. Il recommence. Il y a un autre exil, hélas, en 70 après Jésus-Christ. Et à partir du moment où le processus de rédemption commence au XVIe siècle et les premiers exilés commencent à revenir dans le pays d'Israël et qu'ils recommencent à planter des arbres, on est conscient que le deuxième exode peut se produire à tout moment. Et ce deuxième exode va se marquer aussi par cette résurrection du pays, ce pays qui est devenu désert, tellement qu'une Américaine, la seule femme d'ailleurs, qui l'ait jamais visité au XIXe siècle seule, parce que c'était évidemment très dangereux à cette période, pouvait s'écrier « Quelle désolation !» Et un pasteur suisse qui s'appelait Félix Beauvais pouvait déclarer ceci « J'ai reconnu que cette terre était la terre promise » parce qu'elle était la terre maudite. Et elle était surtout complètement déboisée parce que les Turcs qui la possédaient à cette période avaient coupé tous les arbres pour les brûler dans les locomotives du chemin de fer de Bagdad, puisqu'on ne disposait pas de charbon à cette période et encore moins de pétrole pour les chemins de fer. Si bien que les quelques rares arbres qui existaient encore dans le pays d'Israël ont été totalement coupés et la terre a été dévastée. Et lorsque les pionniers sont revenus à la fin du XIXe siècle, au début surtout du XXe siècle, la première chose qu'ils ont commencé à faire, c'est de replanter, de reboiser le pays. Et là, ils ont planté des millions d'arbres. Et aujourd'hui encore, la fête de Tou Bichvat, non seulement est célébrée par ce seder qui indique cette imminence du deuxième exode, cette imminence de la venue du temps messianique et par conséquent du retour du Messie, mais est aussi un temps où on sort dans la nature, notamment dans les écoles, et les enfants des écoles vont planter des arbres. Un arbre par enfant, et en même temps, l'arbre et l'enfant sont comparables. L'arbre va grandir et l'enfant va grandir aussi, et ça va être la richesse du pays. Ça va être le moment, le moyen par lequel Dieu va manifester cette résurrection du peuple et de la terre ensemble, qui vont reverdir ensemble jusqu'au moment où le Messie viendra. Cette fête s'achève par la fabrication d'une espèce de pain à partir justement des produits de la terre. Et c'est l'anticipation du pain de vie, selon la tradition juive. Le pain de vie qui est aussi symbolisé chaque Shabbat. Lorsque l'on place sur la table les trois éléments dont nous avons parlé, le pain, le vin et l'huile, et hier je vous ai dit qu'en ce qui concernait le pain, il y en avait deux. On met toujours deux pains sur la table de Shabbat. Pourquoi deux pains? Eh bien parce qu'il y a deux pains qui sont nécessaires à la vie de l'homme, le pain de la terre et le pain du ciel. Le pain de la terre, nous l'avons vu hier, c'est le symbole de tous les besoins matériels de l'homme. sa nourriture, vêtements, habitation, tout ce qu'on voudra. Mais il y a un deuxième pain dont l'homme a besoin. Ce pain dont Jésus parlait à Satan quand il a essayé de le tenter dans le désert comme il l'a fait pour Adam. Et Jésus, alors qu'il avait faim et que Satan lui proposait de changer les pierres en pain, a répondu « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et le deuxième pain représente la parole de Dieu. Ce deuxième pain qu'on met sur la table du Shabbat représente la parole de Dieu, la Torah, qui est justement cet arbre de vie à partir duquel on fait le pain de vie. Et ces deux pains sont là justement pour représenter aussi deux époques. Ce qu'on appelle Aolam Hazé, ce monde-ci, et Aolam Haba'a, le monde qui vient. Le premier pain, c'est le pain de ce monde-ci, ce pain que l'homme doit produire à la sueur de son front. Le deuxième pain, celui du monde qui vient, ce sera le pain que le Seigneur donnera miraculeusement à son peuple, le pain de vie qu'il introduira dans le royaume messianique et qui est assimilé avec la personne du Messie lui-même. Nous le voyons dans le grand discours de Jésus dans le chapitre 6 de Jean, le grand discours sur le pain de vie. Et c'est très intéressant de noter que dans la prière du Seigneur, le Notre Père, nous retrouvons ce pain. Comme je disais hier, nous avons là un langage lapidaire qui est typiquement juif. Sept demandes qui sont faites dans le Notre Père et qui vont du Père, la source de toute bonne chose, jusqu'au mauvais, à Satan. Notre Père qui est aux cieux, c'est la première, c'est le début de la prière et ça se termine par « délivre-nous du mauvais, délivre-nous du Satan ». Ça veut dire que l'homme est là entre deux réalités, le bien suprême, le Père, et le mal par excellence, le Satan, le mauvais. Première demande, que ton nom soit sanctifié, Père. Dernière demande, délivre-nous du mauvais. Et juste au milieu, il y a le pain. Donne-nous le pain. C'est-à-dire l'importance qu'il y a à ce pain. Et si vous reprenez le Notre Père, vous voyez qu'il est construit exactement sur ce thème du deuxième exode, mais si vous avez le domaine à l'envers, l'exode à l'envers. Délivre-nous du mauvais. Délivre-nous de Satan comme tu as délivré nos pères du Pharaon. Le mauvais, le Satan, cherche à nous asservir, comme Pharaon a essayé d'asservir nos pères. Délivre-nous. Ensuite, ne nous laisse pas succomber à l'épreuve. Et ça évoque toutes les épreuves que le peuple d'Israël a subies quand il était dans le désert, les murmures et tout ce que Satan a essayé de placer devant le peuple d'Israël pour essayer de le ramener dans cet esclavage dont le Seigneur l'avait tiré. Alors, il fallait évidemment que le peuple d'Israël se repente, d'où la prière de notre Père. Pardonne-nous nos offenses. Nous aussi, il nous arrive de succomber dans la tentation. Alors, quand nous le faisons, pardonne-nous nos offenses. Et puis, on trouve le pain. Donne-nous le pain, la manne. Et ensuite, que ta volonté soit faite. C'est la Torah. Le don de la Torah. Ce que tu nous prescris, Seigneur, nous le ferons et nous l'écouterons, dit le peuple d'Israël, quand Dieu donne sa Torah à son peuple. Et puis que ton règne vienne. Que le royaume messianique vienne, comme le pays de Canaan est venu pour nos pères. Et enfin, que ton nom soit sanctifié. C'est la fin dont Paul nous parle dans le chapitre 15 de la première aux Corinthiens. Quand Dieu sera tout en tous. Voyez-vous, c'est le thème du deuxième exode. Et au centre, on trouve le pain. Et là, il y a un mot très très difficile à traduire, qui est le casse-tête de tous les traducteurs. Ton arton humon, ton epiousion, dit le grec littéralement. Et ce mot epiousion, il est pratiquement incompréhensible. C'est ce que les traducteurs appellent un apax legomenon. Ça veut dire un mot qui n'apparaît qu'une seule fois dans la Bible et une seule fois dans toute la littérature grecque. On ne le trouve nulle part ailleurs que dans le Nouveau Testament, ce mot. Et les traducteurs traduisent en général de la manière suivante. Donne-nous aujourd'hui, c'est méron en grec, notre pain quotidien. Epiousion, c'est pas exactement ça. Epiousion, ça vient d'une racine qui signifie venir. Et littéralement, ça nous donne ceci, si vous traduisez mot à mot, ce pain de nous, celui qui est venant, parce que c'est une forme progressive en grec, ce pain qui est venant. Quand on a dit ça, on n'est pas beaucoup plus avancé. Mais Jérôme, qui a traduit la Bible en latin au IVe siècle, avait un privilège que nous n'avions pas, que nous n'avons pas. Il avait encore des communautés de juifs chrétiens qu'on appelait nazaréens, qui lisait l'évangile de Matthieu en hébreu. Et il a pu consulter l'original hébreu de cette prière de Jésus. Et là, il a lu ceci, « Alechem shel machar ten lanu ayom ». Ça veut dire littéralement « Le pain de demain, donne-le-nous ». Qu'est-ce que ça veut dire, le pain de demain ? Le pain du royaume de Dieu, le pain du ciel. Et ce que nous sommes invités à demander dans cette prière du Notre Père, ce n'est pas tant le pain matériel, le pain de la terre, c'est comme ça que nous l'interprétons, mais c'est le pain du ciel. Donne-nous aujourd'hui, dans ce temps où nous sommes encore en route vers le royaume de Dieu, où nous sommes encore d'une certaine manière sous l'emprise du malin, du mauvais, donne-nous aujourd'hui les réalités du royaume de Dieu que nous connaîtrons demain, que nous mangerons demain dans ton royaume. Tu peux déjà nous les donner aujourd'hui. Et toi, enfant de Dieu, toi qui es né de nouveau, tu peux déjà connaître quelque chose de ces bénédictions messianiques que tu connaîtras dans le royaume de Dieu. Tu peux déjà en goûter les prémices aujourd'hui. C'est ça que ça veut dire. Et voyez-vous, le pain, le vin et l'huile, et c'est ma conclusion, c'est des choses qui évoquent ces réalités du royaume de Dieu qui vient. De ce retour à l'Éden. Le pain de vie, le pain du royaume de Dieu, du pain qui vient, qui est symbolisé justement aussi par ce pain de la scène qui évoque le passé. Chaque fois que vous mangez ce pain, vous annoncez la mort du Seigneur, un événement du passé, jusqu'à ce qu'il vienne, un événement de l'avenir. Et dans les liturgies anciennes, nous voyons que l'officiant, au moment de la scène, disait ceci, « Maranatha, viens Seigneur. Viens Seigneur au dernier jour, mais viens déjà maintenant. Alors que ton peuple est rassemblé pour prendre ce pain et cette coupe. Viens spirituellement comme tu viendras corporellement au dernier jour. Mais aujourd'hui, nous croyons, nous, que tu es aussi présent parmi nous que tu le seras au dernier jour. » Et c'est pourquoi il est important, nous dit aussi l'apôtre, que chacun s'examine soi-même et se juge soi-même. Car quand il viendra au dernier jour, il viendra pour juger le monde. Et si nous ne sommes pas en règle dans notre vie spirituelle, alors c'est un jugement contre nous-mêmes que nous prenons parce que Dieu, le Seigneur vient comme un juge. Mais si nous nous jugeons nous-mêmes, si nous nous repentons, alors nous recevons la bénédiction de Dieu, nous recevons déjà aujourd'hui ce pain de demain. Le pain, le vin et l'huile, ce ne sont pas simplement des réalités terrestres, mais des réalités célestes. Le royaume de Dieu s'est approché. Et déjà, les violents, ceux qui usent de violence sur eux-mêmes, qui usent de violence par rapport aux tentations du monde, peuvent déjà pénétrer par cette brèche faite dans le royaume et goûter l'avant-goût de ce royaume. Et c'est ce que le Seigneur veut donner. Travailler, disait Jésus à la foule, non pas pour la nourriture terrestre, mais pour la nourriture céleste, celle que mon Père vous donnera. Et c'est le sens aussi de cette dernière parole de la Bible, que celui qui entend dise vient, et que celui qui a soif, qui a faim vienne, prenne ces réalités célestes, cet eau de la vie, cet arbre de la vie qui pousse sur ce fleuve de vie, et tout ce qu'il nous apporte, ce vin de la joie messianique, cette huile de la présence du Seigneur, et qu'il vienne et qu'il en prenne gratuitement. Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens », et celui qui dit, qui entend dit « Viens », « Amen », « Maranatha », « Viens, Seigneur Jésus ». Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, merci de placer devant nous ces éléments qui sont les éléments du royaume qui vient. Le pain spirituel, la parole faite chair. Cette parole qui est pour nous pain de vie et qui nous introduira, qui nous introduit déjà dans l'éternité. Dans ce moment, Seigneur, où, parce que nous nous tournons vers toi, c'était comme si le temps s'arrête et comme si nous vivions une parcelle de cette éternité à laquelle tu nous invites. Pour ce vin, Seigneur, qui est la joie du royaume. Et parce que, Seigneur, nous sommes, nous aussi, déjà dans cette dimension éternelle, donne-nous, Seigneur, quelque chose de cette joie éternelle qui couronnera la tête des rachetés quand ils iront dans la Sion céleste, selon ta parole. Et enfin, Seigneur, que cette huile de ton esprit, comme le dit le psalmiste, fasse resplendir notre visage. Parce que toi, Seigneur, tu tournes ta face vers ton peuple et tu fais luire sur lui la lumière de ta face. Seigneur, que comme lorsque Moïse descendait de la montagne, son visage rayonnait, que lorsque nous quitterons ce lieu, nous aussi, notre visage rayonne de ta gloire vers tous ceux qui nous entourent. Parce que, Seigneur, au travers de cette table dressée, cette table qui est la table devant l'Éternel, eh bien, nous puissions nous nourrir de cette nourriture céleste, des fruits du royaume qui vient, de ce deuxième exode vers lequel, dans lequel déjà nous sommes engagés vers cette route qui nous mène vers la Sion céleste, la nouvelle terre promise. Et déjà, Seigneur, que les réalités de cette Sion nous soient données de telle sorte que nous puissions être rassasiés de tous les biens et déjà être comme ceux qui vivaient sous la vigne et sous le figuier dans cette présence et cette gloire du Seigneur qu'il fait lever sur nous en faisant aussi lever sur nous la lumière de sa face. Au nom de Jésus. Amen.